Donc, je suis Valérie Lavaux-Létilleul, géographe à l'université ici de Montpellier 3 et membre du laboratoire Arder. Et je fais cette présentation effectivement seule, mais elle a été préparée avec Isabelle Desmarches-Fabry, avec qui je mène des recherches, et vous allez comprendre rapidement, sur notamment la zone industrielle portuaire de Fos, qui sera aussi question cet après-midi. Donc, il va y avoir un écho entre la présentation de ce matin et cet après-midi. Et ils avaient par ailleurs mobilisé par une fin de HDR. Voilà. Sur le thème qui est proposé pour la journée d'aujourd'hui, je remercie Nadine, Jérôme et François pour ce croisement entre transition, habitat, la question des vulnérabilités, que nous n'avons pas abordé comme tel dans nos recherches, je vais l'expliquer. Mais les échanges que nous avons eus avec François au moment où il s'agissait d'organiser cette journée nous ont permis de revisiter un peu des recherches que nous menons sur ce que c'est qu'habiter en fait une ville productive, où il va être question d'énergie, mais pas seulement. C'est donc une relecture de nos travaux que cette journée nous a permis de faire. Alors comment est-ce que nous inscrivons par rapport à ce qui a été dit ce matin et notamment à cette question de la ville durable et à ces injonctions. Alors nous situons dans le titre sur la question de l'habiter à proximité de méga équipements à risque de la transition énergétique. Nous allons parler de la fabrique de vulnérabilité habitante et des mobilisations. En discutant avec François, nous sommes repartis des références qui nous animent sur l'urbain. C'est peut-être avoir une vision, quand on parle de ville durable, qui soit un peu élargie de l'urbain, hein, pas seulement la ville durable, la métropole, celle dont il vient d'être question, et peut-être cette urbanisation planétaire généralisée, globale, complète, dont parle Henri Lefebvre des années 60. Et l'idée, c'est peut-être de voir aussi ce qui fait tous ces territoires qui sont en lien avec la ville durable, et notamment les territoires de l'énergie, qui vont alimenter l'urbanisation, le développement de l'urbanisation depuis le 19e, mais on va le voir essentiellement au 20e siècle. Donc l'idée, j'ai repris ces citations, c'était de délaisser les formes de cityism, c'est-à-dire de regarder uniquement les formes urbaines en tant que telles, et peut-être de regarder aussi ce qui se passe du côté des non-villes, hein, peut-être de ce qu'on peut appeler des non-villes, mais qui sont aussi des villes, dont la ville productive, donc il y a une question. Et je vous ai remis, peut-être pour du coup élargir et se demander cette ville durable, jusqu'où va-t-elle, ici la couverture du livre de Brenner de 2014 qui avait fait grand bruit, implosion, explosion, et qui montrait ces paysages de l'Alberta, hein, on parlait du président nord-américain, mais ces paysages d'Alberta dévastés, qui correspondent à une alimentation énergétique, hein, des fameuses villes durables. Nous situons nous dans un intermédiaire entre les villes de la consommation d'énergie et ces lieux de production énergétique en travaillant sur les zones industrielles portuaires. Ces zones qui sont à l'interface et qui permettent, notamment pour un continent européen qui est très déficitaire du point de vue énergétique, des importations, on va avoir du pétrole essentiellement, mais également d'autres énergies, sachant que les zones industrielles portuaires sont donc des lieux stratégiques par rapport à la question de la transition énergétique. Donc en travaillant sur ces lieux, on travaille, donc, de notre point de vue, la catégorie que nous utilisons, c'est la catégorie de ville productive, ce qui est derrière comme questionnement, c'est est-ce que c'est une ville d'habitants par rapport à la ville durable, où il est très souvent question des citoyens, éco-citoyens, etc., alors là, il en est très très rarement question des habitants, et on se rend compte, pourtant, qu'il y en a, hein, vous voyez ici, nous sommes sur le golfe de Fos, une raffinerie, la raffinerie Exxon, et vous voyez ici ces habitants sur la plage du Cabanou dont il va être question. Et notre question à nous, c'est qu'est-ce qu'habiter à proximité de ces méga équipements énergétiques ? Vous voyez un terminal méthanier, vous avez vu une raffinerie, les zones industrielles et portuaires regorgent d'équipements de ce type et des gens habitent à proximité. Sur le golfe de Fos, il y a 100 000 habitants qui habitent à proximité de ces équipements. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue des injonctions dont il a été question ce matin et du point de vue de l'habiter, puisque c'est la façon dont nous travaillons sur ces questions-là. Alors il y a en fait deux politiques publiques qui affectent ces territoires et qui vont dans le sens de ce qui a été dit ce matin. La première politique publique concerne la transition énergétique et les produits que doivent aujourd'hui, qui doivent transiter dans ces ports. Donc ça, c'est un premier élément de politique publique, les politiques publiques énergétiques, et les politiques portuaires, le développement portuaire, s'appuient sur la transition énergétique pour développer tout un discours sur les nouvelles énergies qui doivent transiter dans ces ports. Et deuxième discours qui, on va dire, se rapproche de ce que Nadine a dit ce matin sur la ville sûre, c'est ce qu'on a nommé, nous, l'urbanisme sécuritaire. C'est-à-dire que ces équipements énergétiques sont des équipements qui génèrent des risques technologiques majeurs. On va voir quelle est la terminologie employée par l'État dans ce domaine. Et toute la question est de savoir comment habiter à proximité d'un équipement qui peut exploser, qui peut générer des catastrophes. Et on a toute une dimension technique, on va le voir également, qui concerne l'urbanisme qu'on doit mettre en place aux abords de ces équipements qui génèrent des risques technologiques. Donc la rencontre de ces deux politiques publiques génère, on va le voir, toute une série de vulnérabilités. Alors là, nous, on l'emploie dans un sens peut-être plus une catégorie scientifique, pas d'acteur, c'est pas dit en tant que tel. Et c'est à travers, nous sommes toutes les deux géographes, on le travaille à travers l'entrée de la géographie sociale et de la géographie radicale. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, sur ces espaces productifs, l'habité n'est pas interrogé par les acteurs, ou rarement, et c'est ce que nous avons fait dans le cadre des enquêtes que nous avons menées depuis 2012 auprès des habitants de la zone industrielle portuaire, notamment de la commune de Fos. Et deuxièmement, nous interrogeons à travers la question de mobilisation. On va voir que ces politiques publiques, aussi bien qui concernent l'énergie que l'urbanisme sécuritaire, génèrent toute une série de conflits et de mobilisations de la part des habitants. Et c'est ce que je voudrais vous présenter là, alors peut-être de façon un peu préfiguratoire de la journée qui est prévue par le Réal, si j'ai bien compris, le futur programme. Donc, premier point, je vais passer assez vite. Les zones industrielles ou portuaires, et peut-être pour aller dans le sens des remarques qui étaient tout à l'heure, les remarques sur rupture ou continuité, en fait, les zones industrielles ou portuaires sont au service de nos sociétés urbaines carbonées depuis le 19e siècle. Hein, on a les premiers pétroliers qui, à la fin du 19e, arrivent et déchargent dans les ports. Et surtout, évidemment, à partir des années 1950-1960, quand ces zones industrielles ou portuaires sont créées, dans les grands plans d'aménagement français. Et je vous ai mis deux cartes. Alors, je vais passer assez vite, mais vous voyez ici l'Union française des industries pétrolières qui donne sa carte de France de l'approvisionnement énergétique en pétrole français. Et je vous mets, donc, vous voyez les points d'entrée du pétrole du Havre. Et vous avez, la carte qui est celle des trafics portuaires français. Et en fait, tout ce qui est violet correspond à, en gros, des vrac liquides et essentiellement des hydrocarbures. Donc en fait, vous voyez que l'essentiel du trafic des ports français repose sur des importations énergétiques, alors que le discours cible énormément les conteneurs, qui sont des marchandises sexy, entre guillemets. L'énergie est une, on va dire, jusqu'à très récemment, c'est le premier trafic des ports européens, et c'est en même temps un trafic qui est très tabou. Jusqu'aux années 2010-2015, quand va se développer le discours de la transition énergétique, on ne parle pas d'énergie, alors que c'est en fait le principal stock de marchandises et de revenus pour les autorités portuaires françaises. C'est une marchandise qui n'est jamais discutée ni mise sur la table des débats. Alors, tout cela est lié à l'évolution du transport maritime depuis les années 50, ces bateaux, les pétroliers, les méthaniers qui transportent ces marchandises. Je laisse de côté le détail. Ce qui compte, c'est de voir que des espaces ont été complètement modelés, les zones industrielles et portuaires, pour accueillir ces marchandises et ces minerais et ces hydrocarbures depuis les années 60-70. Dans le cas de Marseille-Fos, c'est ce fameux golfe de Fos qui, dans les années 60, à 50 km pardon, de Marseille, va être développé dans le cadre du plan de la Datar. Des plans que tous les aménageurs reconnaissent, équipe du territoire, Dunkerque, Marseille, etc. Et en fait, le golfe de Fos, que nous allons cibler dans cette étude, c'était ça au départ, c'est-à-dire le village provençal, la Camargue, hein, toutes ces traditions qu'on va voir renaître dans les pratiques habitantes, mais c'est devenu, dans les années 60, eh bien, cet espace qui a été progressivement, vous le voyez ici avec le traçage des Darses, qui est devenue la zone industrielle portuaire de Fos que l'on connaît aujourd'hui, avec essentiellement bon, la sidérurgie qui ne va pas nous concerner, ce n'est pas de l'énergie, mais en revanche, les raffineries que vous voyez là et qui sont également de l'autre côté, jusqu'au bassin de l'étang de Mer, qui se retrouve dans le fond de la photo. Donc en fait, on a bien un espace créé dans les années 60, notamment pour accueillir cette énergie, même si ce n'est pas dit dans les années 60. On parle de pétrole saharien, mais il n'en est pas fait plus mention dans les années 60. En revanche, depuis 2010, les années 2010, on a tout un discours sur la transition énergétique qui est censé assurer la relance du développement portuaire. Et les autorités portuaires, notamment celle de Marseille, vont se servir abondamment de tout un des vocables, des injonctions également étatiques pour justifier de nouveaux projets de développement énergétique. Alors, je vous ai mis ici, sans les analyser, quelques éléments. Le port de Marseille soutient la COP21, tout cela encore dans le développement durable. Vous avez un débat public très récemment qui a eu lieu sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc on a toute une injonction également à la participation, hein, les paradigmes de la participation qui sont bien présents. Et voilà ce que ça donne. Alors, le mélange des paradigmes, il est un peu détonnant, c'est-à-dire, et ça va dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure, peut-être sur la vie durable, c'est que on est toujours dans le paradigme de la croissance. C'est-à-dire qu'il faut rester le premier port. Hein, Marseille est le premier port français, le premier port méditerranéen, troisième port pétrolier mondial. Et le but, c'est de le rester. Sauf que le pétrole diminue, et on va voir que l'objectif de l'autorité portuaire va être de substituer les trafics non pétroliers à cette diminution du pétrole. Ce que l'on voit, c'est qu'il faut toujours en discuter. Donc le paradigme participatif est toujours très présent. Dès qu'il y a un projet, on en parle ensemble. Et on a également le paradigme technique qui est très très fort, puisqu'on a toute une série de projets pilotes qui portent soit sur l'économie circulaire, les réductions d'énergie, etc. C'est-à-dire un discours technique d'ingénieur qui correspond à ce que vous avez dit sur la vie durable et qui correspond donc aux activités portuaires. Sur quoi porte la transition énergétique? Essentiellement, alors sur le fait, le mot d'ordre de l'autorité portuaire, c'est la diversification des sources d'énergie, plus seulement le pétrole, mais on va rajouter le gaz, on va rajouter les biocarburants, on va rajouter l'éolien aussi, jusqu'à de l'éolien offshore. Bref, l'idée, c'est de caler des énergies nouvelles sur une injonction à la diversification des approvisionnements. Et notamment, on va voir que le gaz et les biocarburants sont au cœur du projet. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne toute une série de sites qui sont des sites énergétiques, soit anciens, des sites pétroliers, donc c'est là qu'il y a transition énergétique, hein, ou en tout cas, pas seulement changement, mais aussi superposition. Soit on a ici des raffineries pétrolières, comme ici, comme sur l'Avera, ou ici sur Esso, qui sont des industries qui datent sur les années 1930 ou 1960. Ou alors, on a des nouvelles sites énergétiques, ici un terminal méthanier, et ici, on va voir une ancienne raffinerie qui va être transformée de la mède pour les biocarburants. Donc, en fait, on a tout un golfe de fosse qui va être recouvert soit d'anciens sites énergétiques pétroliers, raffineries et dans certaines fermes, et de nouveaux projets énergétiques méthaniers, du gaz, donc, ou alors les biocarburants. Voilà ce qu'on trouve sur la zone de fosse au niveau énergétique. Maintenant, qu'en est-il du point de vue de l'habité? Puisqu'il y a, donc, comme je disais, 100 000 habitants qui habitent à peu près autour de ces grandes industries qui sont des industries à risque. Alors là, il faut remonter, là encore, je pense que dans l'histoire, hein, vous parlez de cette ville sécuritaire qui peut-être prend naissance dès le 19e siècle. Napoléon, donc 15 octobre 1810, a adopté le premier décret relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Donc on était sur les nuisances olfactives. Et on va voir que toute la législation, au fur et à mesure d'éléments historiques marquants, de catastrophes, hein, Fézin, et notamment 1976, Céveso, Bhopal, jusqu'à AZF à Toulouse, toutes ces catastrophes se sont traduites par une réglementation d'urbanisme sécuritaire, on va dire, qui vise à encadrer les installations censées être à risque, au bas, et notamment la directive européenne CEDESO de 1982 qui réglemente l'urbanisme autour de ces sites énergétiques à risque. Deux dates importantes pour ce qui concerne les habitants: la directive CEDESO de 1982 qui a été renforcée en 2003, c'est là que nous avons ciblé l'étude avec Isabelle Berry sur le golfe de Fos. 2003, c'est la loi dite Bachelot qui est la loi de prévention des risques technologiques naturels et de la réparation des dommages suite à l'explosion, à la catastrophe d'AZF à Toulouse de 2001. Et on va voir qu'il va y avoir un impact extrêmement fort sur l'habitat, et on va voir les habitants autour de cette nouvelle directive de loi Bachelot de 2003. Alors, les risques, vous connaissez donc cette vision institutionnelle du risque qui est toujours liée à la définition du binôme aléa-vulnérabilité. Hein, l'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène dangereux se produise, et les enjeux, la vulnérabilité, sont centrés sur les personnes, les biens, les activités qui sont exposées à l'aléa. Et le risque technologique, c'est la combinaison des deux. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le cas de cette loi Bachelot? Deux choses, et il faut les avoir en tête du point de vue des habitants, les deux sont importantes. Premièrement, la loi vise à réduire les risques à la source, c'est-à-dire qu'elle demande aux industriels de réduire la possibilité de dommages causés aux habitants, aux activités, etc. Et ce qui est important, c'est les mots qui sont en rouge, c'est-à-dire dans la limite de, on va regarder les deux derniers mots, de l'économiquement acceptable. Voilà ce que dit la loi, c'est-à-dire que les industriels doivent faire des efforts pour réduire les risques à la source dans la limite de ce qui est possible de faire pour eux d'un point de vue économique. Donc cette interprétation d'économiquement acceptable va être un enjeu pour les habitants. Et le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où les industriels ont réduit l'aléa, eh bien, il y a toujours la question de la vulnérabilité s'il y a des habitants dans le périmètre de ces risques. Et on a quatre types de mesures qui sont mises en place. Des mesures foncières d'expropriation, de délaissement, de préemption. Donc on a des habitants qui doivent sortir des zones qui sont les plus risquées autour des installations dangereuses. Et on a des mesures pour ceux qui habitent dans des périmètres qui sont un peu plus éloignés, des mesures de protection, notamment des travaux sur le bâti. Et ces travaux sur le bâti portent essentiellement sur les huisseries, hein, des renforcements d'huisseries, et la construction de bunkers, notamment dans les habitations en cas de catastrophe. Des mesures d'urbanisme pour la suite que je laisse de côté. Ces deux dimensions, les mesures foncières, expropriation, délaissement, préemption et les mesures de protection, vont avoir des conséquences extrêmement fortes, à la fois sur l'habitat et avoir pour les habitants. Alors, si vous voyez ici une carte des sites Céveso en France en 2012, au moment où la loi va être discutée et mise en application, entre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, vous voyez que les zones industrielles ou portuaires sont des lieux particulièrement sensibles à ces questions, puisque c'est là qu'on a les plus fortes concentrations d'équipements énergétiques et d'équipements à risque. Donc la zone industrielle ou portuaire de Fos comporte 17 équipements Céveso et des habitations qui se situent dans les périmètres. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Par des zonages, hein, des systèmes de zonage autour des industries à risque. Voici le golfe de Fos, et vous voyez les zones Céveso 2 en vert et rouge, zone 1, et cela génère une cartographie des aléas et une cartographie des vulnérabilités, sur laquelle j'ai passé assez rapidement, mais pour vous dire qu'il y a des sites qui sont soit peu impactés. Sur la zone de Fos Est, vous avez toute une série d'industries à risque. Il y a zéro mesure foncière d'expropriation, mais il y a 19 logements qui peuvent subir des travaux. Et en revanche, par exemple, autour de la raffinerie de la Med, on a sur un PPRT, donc plan de prévention des risques technologiques, hein, c'est le document en question, de 2014, on a 800 logements pour lesquels les travaux sont prescrits, et on a des mesures foncières d'expropriation pour 42 bâtis, et de délaissement pour 30. Donc on a des habitants qui vont être très directement impactés par ces mesures. Alors, comment les habitants vont-ils réagir face aux risques? Les travaux de collègues réalisés sur cette question des PPRT, puisque c'est une réglementation nationale, et les travaux que nous avons menés sur FOS sont totalement concordants. La façon dont les habitants vivent cette injonction à l'urbanisme sécuritaire, c'est de les poser sous une forme de justice socio-spatiale. Et il y a toute une série d'injustices qui vont du coup entraîner des mobilisations de la part d'habitants autour de, premièrement, de l'application de cette loi. Donc, première dimension de l'injustice, cette loi est injuste parce qu'elle comporte toute une série de dimensions qui, en termes de responsabilité, de coût et d'implication, sont vécues comme agressifs et générateurs de vulnérabilité pour les habitants. La première raison, c'est tout d'abord qui paye. Qui paye ses travaux, qui paye quand il faut partir. Et vous voyez ici une habitante mobilisée dans un collectif anti-PPRT transformer sa maison en bunker à ses frais parce qu'on est riverain d'une usine à risque, alors que dans le même temps, il est inscrit dans la loi que les travaux de sécurisation doivent être économiquement acceptables. C'est totalement injuste. L'industriel peut se retrancher derrière cette notion floue que permet la loi pour ne pas effectuer les travaux. Donc en fait, l'idée, c'est que l'industriel, lui, a l'économiquement acceptable dans la loi, mais le socialement acceptable pour l'habitant n'existe pas. Et c'est l'habitant qui, vous voyez ici dans des mobilisations, choisi de refuser de payer pour les travaux, notamment, qui sont des travaux prescrits par la loi. Alors, on a, avec Isabelle Berry, retravaillé toute une série de dispositifs. Ce travail va être monté par les... cette mobilisation qui est assurée par les collectifs d'habitants va être relayée par les maires des communes industrielles impactées et va donner lieu à toute une série d'échanges au niveau législatif sur la façon dont le partage des coûts va être réparti entre industriels, collectivités et habitants. Et vous voyez que dans un premier temps, la loi avait prévu que c'était les riverains à 60% et l'État qui se partageaient les frais des travaux. Et suite aux combats et mobilisations qui ont été menées, les industriels ont dû en prendre un quart. Et finalement, les habitants et les collectivités, 25%. Il en reste donc 10% pour les habitants et 40% pour l'État, avec des principes de crédit d'impôt. Donc tout cela a donné lieu à toute une série de batailles au niveau de l'Assemblée que nous avons retracées, puisque ça s'est joué sur plusieurs années dans la façon de, dans la répartition des coûts. Deuxième aspect qui, pour les habitants, est complètement fait que cette loi est grotesque, c'est l'idée, vous voyez, la vie à fausse, c'est... vous voyez ici toujours la fameuse plage du Cabaou, c'est la Brivado. J'aurais pu mettre les barbecues dans le jardin, les habitants vous disent nous vivons dehors. Donc nous pouvons toujours construire des bunkers, nous pouvons toujours construire des épiceries. On vit 8 mois de l'année à l'extérieur quand nous allons travailler dans les usines qui sont potentiellement dangereuses. En fait, qu'est-ce que ces protections, contre quoi nous protégeons-elles puisque nous vivons à l'extérieur? Ça, c'est un deuxième point. Et troisième point, pour les habitants ou les professionnels, en l'occurrence, vous allez voir, une pharmacie qui est assez connue à côté de la raffinerie Totalamed, la question se pose pour ceux qui sont expropriés. Alors, on sait très bien, on a beaucoup travaillé dans la rénovation urbaine sur les questions de l'expropriation et de l'arrachement au territoire vécu pour les habitants qu'on oublie de partir. Là, vous avez un pharmacien à qui on refuse de se délocaliser dans un supermarché Carrefour qui, à proximité, lui permettrait de trouver un nouveau lieu, qui a des valeurs sur sa pharmacie qui ne permettent plus de la revendre et qui se retrouve dans une impasse complète sur le plan de l'exercice de sa pratique, d'où toute une série de manifestations organisées autour de cette pharmacie à proximité de la raffinerie de la Mer. Donc, problème également pour ceux qui doivent partir. Et puis, dernier point, qui a été très très fortement mis en avant par les habitants, pour eux, le risque technologique n'est pas le principal risque qu'ils affrontent sur ces territoires. Le principal risque, alors ça c'est un gros problème pour eux, c'est toujours que la loi se réfère à des catastrophes extérieures. AZF Toulouse, 2001, très bien, et pour eux, ils ont vécu déjà toute une série de catastrophes. Ils ont pour certains des morts à déplorer dans leur famille, notamment par exemple la raffinerie Totalamed qui a explosé le 9 novembre 1992, qui a créé 6 morts. Ça fait partie des catastrophes qui, localement, dans le territoire vécu, sont inscrites, mais qui n'ont donné lieu à aucune mesure, des mesures qui, sur le plan pénal, ont été extrêmement considérées comme dérisoires par les habitants. Et l'idée est de dire pourquoi une loi au niveau national réglementant un problème, une catastrophe à Toulouse, venant nous poser des problèmes à nous, habitants de Fos, alors que nous avons notre lot de catastrophes historiques, ou, deuxième point, que nous avons en fait pas seulement des catastrophes, mais que nous vivons, et ça fait référence peut-être à la présentation de Johanna cet après-midi, la mort, pour nous, ce n'est pas forcément une explosion catastrophique, c'est la mort à petit feu que nous vivons, notamment au point de vue de la santé publique. On parlait de la santé tout à l'heure. Pour les habitants de Fos, le vrai problème, c'est le fait de vivre dans un environnement pollué, qui fait que les leucémies, les maladies respiratoires d'enfants, etc., font de ce lieu un lieu d'insalubrité publique qui n'est pas reconnu par les pouvoirs publics pour l'instant. D'où l'idée que le risque réel, c'est ce risque-là, et non pas celui que le risque technologique prévu par la loi. D'où toute une série de mobilisations sur lesquelles je passe, et je voudrais cibler deux équipements qui sont des équipements énergétiques de la transition énergétique, qui sont censés incarner la transition dans tout ce qu'elle aurait, et dans le discours de l'autorité portuaire, de ce qu'elle aurait de plus avancé. Alors, le premier, je vais passer sur celui-là, simple, c'est la raffinerie Totalamed, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été touchée par l'accident de 1992. C'est une raffinerie qui date de 1935, donc là vous voyez le site, et très imbriquée comme on le faisait à l'époque, hein, dans la proximité ville-industrie, puisqu'il s'agissait là aussi une évolution des représentations autour de la façon dont on articule industrie et urbain dans la ville productive. C'est une industrie qui date de 1935 et qui a été en 2015, Total a stoppé l'activité de raffinage pétrolier et a imaginé une solution qui est de faire donc en 2017 le projet de bioraffinerie accueillant du biodiesel, un projet de 200 millions d'euros, avec l'idée de maintenir 250 emplois sur les 450 qui existaient précédemment. À partir de 2018 également, il y a mise en service une petite centrale solaire, puisque vous voyez que l'énergie propre, verte, sûre, elle est bio et elle est aussi solaire. Et que se passe-t-il? Eh bien, on a déjà des habitants qui vont se retrouver, après, suite à des contentieux au tribunal administratif, vont se retrouver dans une situation un peu compliquée, puisque le PPRT les impactait directement, mais avec l'arrêt de l'activité de la raffinerie, la cause du risque technologique est supprimée. Ce qui fait que l'État, en 2016, Adria annonce la fin du PPRT qui était validé un an plus tôt. Donc on se retrouve avec une situation où la non-durabilité, en quelque sorte, ou pérennité de l'activité industrielle, qui a généré un urbanisme sécuritaire, se retrouve dans une situation, là, d'impasse. Et les habitants le notent en disant que eux, habitants et travailleurs dans ces usines, savaient très bien que depuis de nombreuses années, Total prévoyait de fermer et de changer son activité, ce qui n'avait pas été pris en compte. J'ai montré, ça c'est important peut-être par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, avec Isabelle Berry sur quoi on est en train de travailler, c'est en fait la pluralité de mobilisation qu'il y a autour de ces sites et le fait de ne pas peut-être se concentrer sur une entrée sectorielle. C'est-à-dire que le PPRT, oui, alors ça on l'a dit, non PPRT à la charge des riverains, on vient d'en parler, mais en même temps on a des mobilisations pour l'emploi, car ces lieux sont des lieux d'emploi et l'emploi diminue. Et c'est ce qu'on vient de voir, on passe de 450 à 250 emplois, donc on a des mobilisations syndicales très fortes, et parfois ce sont les mêmes, qui sont à la fois habitants, travailleurs, ou dans des familles d'eux, et on a en même temps des mobilisations sur les controverses énergétiques, c'est-à-dire le biocarburant, très bien, mais de l'huile de palme, donc la déforestation en Asie, etc. Ce qui veut dire que vous avez toute une série de mobilisations, PPRT, emploi et énergie propre, controverse autour de l'énergie propre, sur ce site de la raffinerie de la Mède. Et deuxième point également qu'on voulait vous montrer, c'est le terminal méthanier GDF Cavaou, qui a été implanté en 2010. Gros événement, le port est ravi parce que c'est 9 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié qui viennent remplacer les raffineries qui ferment et du pétrole qui est supprimé. Et ce terminal entre en service en 2009, vous voyez, sur les trois cuves que vous voyez là, où il y a un bateau, un métallier avec ses sphères, hein, puisqu'il faut que le gaz soit maintenu à moins 162 degrés pour être liquide. Et il se trouve que le site d'implantation de ce terminal métallier, c'est en fait la fameuse plage du Cavaou, puisque vous avez vu les baigneurs hein, très régulièrement depuis le début de la présentation, c'est la fameuse plage du Cavaou qui est un lieu emblématique pour les phocéens. Avec, on va dire, ce village perché de clôture. C'est le deuxième site sur lequel tout le monde est venu apprendre à nager, tout le monde va l'été, le printemps et l'automne. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, les habitants qui veulent, ils veulent bien que ce terminal métallier soit implanté sur le golfe de Fos, ne veulent pas qu'il le soit sur leur plage. Et on va avoir un problème d'implantation, donc une nouvelle problématique en aménagement, le problème d'implantation d'un lieu énergétique, d'un site énergétique nouveau, qui va empiéter sur un lieu de pratique hein, balnéaire pour les habitants sur leur commune. D'où les mobilisations gigantesques, donc selon le Cavaou, fausse ville morte. Hein, l'idée, c'est de vous montrer que c'est un lieu de mobilisation intensive, cette zone industrielle portuaire de Fos. Et avec un discours très nuancé, c'est que les habitants proposent un site alternatif qui va être refusé hein, par l'autorité portuaire, qui, quelques années plus tard, va d'ailleurs choisir d'y implanter un autre terminal méthanier, ce qui va renouveler la colère des habitants. Qu'est-ce que tout cela donne? Eh bien, c'est une décision historique. C'est GDF hein, qui est l'exploitant de ce terminal méthanier. Il se trouve que l'association Habitants de Fos a gagné par rapport à GDF sur le permis, non pas de construire, mais d'exploiter le terminal. Ce qui fait qu'en 2009, les habitants, l'association habitante, avait dans sa poche la possibilité de refuser à GDF l'exploitation du terminal qui venait d'être construit. L'association a choisi de ne pas le faire parce que ce n'était pas le but d'arrêter l'activité énergétique. En revanche, ils ont obtenu deux choses assez... Alors, pour vous montrer le problème politique, c'est premièrement d'obtenir une concession de plage pour 12 ans pour la commune en réduisant les périmètres de risque, c'est-à-dire en disant qu'on préfère aller continuer à aller se baigner à proximité d'un terminal méthanique qui peut exploser plutôt que de ne pas se baigner du tout. Donc en fait, ils ont obtenu un régime dérogatoire à la loi sur l'urbanisme sécuritaire, les pratiques sécuritaires, afin de continuer à maintenir leurs pratiques localement. D'où cette victoire, qui est un peu étonnante, de David contre Goliath, qui vise à maintenir des pratiques sur un lieu qui a été fortement impacté par le nouveau terminal méthanique. Donc vous voyez l'étendue des mobilisations qu'il y a autour de ces projets énergétiques. Juste en conclusion, la fabrique de vulnérabilité habitante, sur quoi porte-t-elle ? Alors, je ne vais pas revenir sur la transition, ça me semble trop compliqué. Je vais dire que ces lieux, ce sont des lieux fondamentaux parce que, et j'insiste sur ce que disait François, sur la dimension politique de ces lieux. Elle est politique à la fois du point de vue de l'approvisionnement énergétique et je me réfère à Mitchell sur la carbone démocratie, c'est-à-dire que Mitchell expliquait comment l'énergie qui était le moteur de nos sociétés capitalistes, urbanisées, il fallait maîtriser ces lieux-là. Alors, il parle, lui, du blocage possible sur les mines hein, de charbon à l'époque, au XIXe siècle. En fait, les ports sont des lieux de blocage possible d'une économie et d'une société aujourd'hui, d'où l'importance stratégique de ces sites au niveau de l'État et des acteurs économiques. Et vous voyez, toutes les mobilisations se traduisent nationales, se traduisent systématiquement. Là, j'ai plus la loi de travail, donc on pourrait prendre toute une série de mobilisations, se jouent très fortement dans l'approvisionnement dans les raffineries et les dépôts de carburant. Mais ce sont aussi des lieux pour l'habiter et pour les habitants. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que pour les habitants, ces lieux-là, c'est certes des industries, mais c'est aussi leur lieu de vie, hein, et leurs espaces vécus, leurs territoires de pratique. Et du coup, l'injonction de la politique énergétique d'un côté et l'injonction de l'urbanisme sécuritaire se trouvent très souvent en contradiction avec leur façon de vivre ce territoire. Et qu'est-ce que cela donne ? Ça donne en fait des dimensions que je vais essayer de rappeler par rapport à ce que je vous ai dit. En fait, pour les habitants, il y a toute une série de vulnérabilités autour de ces équipements. Il y a les questions de l'emploi qui est quand même majeure. Habiter, c'est aussi travailler. Et par le salaire, arriver à vivre hein, sur un lieu donné. Il y a la diminution de la suppression de la taxe professionnelle, qui a par exemple été un gros coup pour les collectivités sur le bloc de Fosse, sur les zones industrielles portuaires. Et il y a la question des nuisances, et cet urbanisme sécuritaire a augmenté les agressions, les nuisances, les coûts, le coût social, le coût financier, et parfois symbolique sur des lieux qui étaient hautement valorisés. D'où, en conclusion, l'idée que, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, Nadine et François, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fonction des discours et des points de vue, les mêmes personnes sont traitées différemment. Dans le discours de l'autorité portuaire, quand il s'agit d'aménager la zone industrielle portuaire, il y a tout un discours sur l'emploi, hein, en lien avec la transition énergétique, et on est sur des projets industriels portuaires, l'acceptabilité sociale, c'est la façon, c'est le discours aménageur, industriel ou portuaire. Quand on est sur l'urbanisme sécuritaire, ce ne sont plus les travailleurs, ce sont les riverains. C'est-à-dire qu'on habite à proximité d'eux, d'un équipement dangereux. Et donc là, on est sur une dimension très technique, c'est plus l'habitant, c'est l'habitat qui est visé. Hein, c'est la dimension technique et matérielle de l'urbanisme sécuritaire. Et on est sur des zonages, des politiques publiques de type plan de prévention des risques technologiques. Et nous, ce qu'on observe quand ces habitants, qui sont à la fois souvent donc, des travailleurs liés à cette zone industrielle portuaire et qui habitent à proximité de ces équipements, eux, ce sont des habitants. Et des habitants au même titre que les habitants de la ville durable, des écoquartiers. Et les questions de justice sociale, c'est pour eux d'être traités de la même façon que tout citoyen, le Marseillais, l'habitant de l'écoquartier. Et leur revendication, c'est une revendication d'égalité. En tant qu'habitants, par rapport à un territoire vécu, et pour eux, dans ces territoires qui sont des territoires servants de la vie durable, en quelque sorte, leur façon de se positionner comme des habitants et de revendiquer ce statut d'habitant citoyen, c'est par les mobilisations contre ces politiques publiques qu'ils estiment extrêmement agressives. D'où donc la nécessité de rentrer et d'articuler, habiter et contester les mobilisations sur ces territoires énergétiques qui sont au service d'une autre ville durable plus globale.